France Inter.
France Inter. Le 18-20. Christelle Rebière.
C'était l'autre volet des enseignements à tirer des émeutes de juin 2023 à la suite de la mort de Naël à Nanterre, après la justice des mineurs, et on a vu la semaine dernière encore que les lignes continuent de bouger avec la réforme Attal, le volet parental et éducatif. Une commission avait été chargée d'émettre des recommandations pour améliorer l'exercice de la parentalité. Elle a rendu son rapport jeudi dernier. Alors qu'est-ce qu'être parent aujourd'hui? Pour quelle autorité? Comment mêler sévérité et bienveillance? Que faire avec un enfant que l'on sent décrocher ou qui souffre d'anxiété, voire de troubles dépressifs? On se souvient de la phrase de l'ancien garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qu'ils tiennent leurs gosses. Mais est-ce si simple? Comment faites-vous? Vous sentez-vous seul parfois et démuni, et encore plus dans le cas des familles monoparentales? Alors, on va examiner ces recommandations, car deux de leurs auteurs sont avec nous. On va parler d'éducation, d'autorité. Les parents ont des droits et des devoirs. On partage votre intimité familiale ce soir et on va voir comment faire société.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Bonsoir Claudie.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue.
Merci.
Nous vous écoutons.
Alors moi je suis enseignante et éducatrice en classe relais, donc c'est une classe qui accueille des élèves de collège décrocheurs scolaires. Mmh. Et donc là on est face aux parents démunis à longueur de journée, c'est-à-dire que les parents ils nous disent souvent: nous, on fait tout ce qu'on peut pour eux, et en échange, ben, on n'a rien, ils décrochent et on comprend pas pourquoi. Mmh. Donc, notre travail, c'est aussi de faire de l'aide à la parentalité. Et là, c'est remettre les parents à leur place de parents. C'est-à-dire que, à un moment, les adolescents, pour se construire, ils ont besoin d'avoir des adultes construits en face de des adultes solides. Et s'ils n'ont pas de... Si en échange ou en face d'eux, ils n'ont que des personnes qui donnent tout et qui n'exigent rien, eh bien les gamins, ils vont pousser toujours plus loin pour voir où sont les limites.
Mmh. Et ça, c'est quelque chose que vous constatez particulièrement chez les décrocheurs scolaires, ou est-ce que c'est tous les enfants au fond, un petit peu?
J'imagine que c'est tous les enfants. Moi, je connais bien le cas des décrocheurs scolaires parce que c'est mon travail quotidien. Mais à côté de ça, j'ai des enfants qui sont grands maintenant. Mais voilà, j'ai vu qu'il fallait poser des limites. C'est-à-dire, c'est pas être hyper strict, c'est dire ce qu'on fait, mais faire ce qu'on dit.
Mmh. Voilà. Merci Claudie d'avoir ouvert le débat. Pour en parler avec vous, nous sommes en ligne avec Hélène Rock, fondatrice de Notre Avenir à Tous. C'est une structure spécialisée dans la jeunesse, coprésidente de la fameuse commission dont on parlait tout à l'heure. Bonsoir.
Bonsoir.
En studio avec nous, Serge Effèze, pédopsychiatre, coprésident aussi. Bonsoir.
Bonsoir.
Et puis la spécialiste de ces questions à la rédaction de France Inter, Alice Cachaner, qui est aussi avec nous en studio. Bonsoir, bonsoir Alice. Alors, Claudie disait, il faut remettre les parents à leur place de parents. Serge Effèze.
Je suis tout à fait d'accord avec elle, mais qu'est-ce que c'est que cette place de parents, justement? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on travaille avec les parents? Comment est-ce qu'on travaille avec les familles? Comment est-ce qu'on mise sur le fait que les parents ont des compétences et qu'ils ne sont pas incapables, qu'ils ne manquent pas d'autorité, que ce qui est en train de se passer dans la famille est peut-être lié à tout un tas de choses qui n'ont rien à voir avec les caractéristiques personnelles des parents, des difficultés professionnelles, des difficultés psychiques, un deuil, un traumatisme, un chômage, quelque chose qui fait que la famille est un peu bloquée dans ses capacités. Et plutôt que de la stigmatiser, plutôt que de se dire qu'elle n'est pas capable de faire son travail, comment est-ce que la société dans son ensemble va lui donner les outils pour qu'elle sache travailler? Comment est-ce qu'on va pouvoir faire en sorte que la coparentalité fonctionne? Comment est-ce qu'on va faire en sorte que les familles connaissent leurs droits? Parce qu'elles ont des droits que souvent elles ne connaissent pas. Comment est-ce qu'on va travailler avec l'entreprise pour que lorsqu'il y a un décrochage scolaire, par exemple, c'est une des préconisations de notre commission, il puisse y avoir des demi-journées accordées aux parents pour rencontrer l'école, pour créer une alliance éducative, pour faire en sorte qu'il y ait un véritable maillage autour de ces enfants.
On va y revenir, hein, parce que vous avez fait 40 propositions, 40 recommandations, dont quelques-unes que vous venez d'énumérer. Mais d'abord, Hélène Rock, j'aimerais que vous me disiez, vous, quelle est la définition de l'autorité, selon vous?
Quelle est la définition de l'autorité parentale, vous voulez dire?
L'autorité, puisqu'on parle d'autorité, c'est le mot à la mode en ce moment, il faut remettre de l'autorité un peu partout. Dans le cadre familial, ça ressemble à quoi l'autorité aujourd'hui?
réussir, enfin, l'autorité parentale aujourd'hui dans le cadre familial, c'est réussir à faire le bien de son enfant et à faire en sorte qu'il vous écoute. C'est peut-être pour ça qu'on a parlé d'autorité bienveillante, c'est-à-dire que la société a changé. On n'est plus dans une autorité verticale dans laquelle on prend pour argent comptant tout ce qui est dit. Donc l'autorité, aujourd'hui, ça se mérite un petit peu plus, peut-être que par le passé. Mais pour moi, l'idée clé, et c'est vraiment la proposition centrale de notre travail, c'est la coparentalité. Et c'est cette coparentalité, donc je suis prête à vous parler en complément de ce qu'a dit Serge Éphèse, qu'il faut absolument développer. Et j'ai envie de vous dire, pour prendre un petit peu de recul historique, que depuis une soixantaine d'années, on a accompagné les femmes dans leur émancipation économique. Mmh. On a créé des crèches. On a créé, évidemment, il n'y en a jamais assez. Mais on est dans un pays dans lequel il y a tout de même beaucoup d'aide pour les gardes d'enfants, le soutien psychologique, le soutien juridique, avec, comme disait Serge Éphèse, aussi le fait qu'il faut être au courant que ce soutien existe.
On les a accompagnés. C'est une question sur laquelle on va revenir, parce qu'effectivement, souvent, on ne sait même pas à quoi on a droit. Hein.
Voilà, mais on n'a pas accompagné l'implication des pères dans la parentalité avec des mesures concrètes. Et ça, c'est vraiment très, très important, parce que c'est un changement social inachevé qui a eu lieu une cinquantaine d'années. Et il faut absolument changer les mentalités, parce qu'on doit faire ce qu'on a fait pour les mères il y a 60 ans, on doit le faire pour les pères aujourd'hui, et c'est cela qui va renforcer l'autorité.
Mmh. Alice Cachaner, comment fait-on famille aujourd'hui, puisque le modèle de la famille traditionnelle a explosé, hein.
Alors il a explosé, oui et non, parce que la famille traditionnelle, ce schéma-là, il reste quand même prédominant, c'est 67% des familles, mais comme vous
Même, ça veut dire qu'il y en a quand même beaucoup qui ne sont plus dans le schéma traditionnel.
Exactement,
aujourd'hui.
En fait on a beaucoup plus de familles monoparentales aujourd'hui, c'est un quart des familles, et à titre de comparaison c'était seulement 11% des familles dans les années 90. Et en ce qui concerne les familles recomposées, eh bien là, ça représente 10% des familles. Donc en effet, le visage des familles françaises a beaucoup changé. Des familles donc, qui ont beaucoup évolué, qui ont différentes facettes. Aujourd'hui, on peut faire famille avec aussi des grands-parents, avec des parrains, des marraines, avec des beaux-parents, dans le cas des familles recomposées. Et puis des familles aussi qui sont le reflet de la société, hein, comme vous le disiez, il y a le travail des femmes, donc on n'a plus ce schéma de la mère au foyer qui peut s'occuper des enfants pendant que H24, pendant que le père travaille. Donc voilà, il y a cette question aussi de est-ce que notre logiciel aujourd'hui, il n'est pas un peu dépassé vis-à-vis de ces nouvelles familles ? Je vous pose la question à vous, Serge Éphèse.
Mais c'est-à-dire que ce qui a profondément changé, Hélène le rappelait tout à l'heure, c'est l'égalité des sexes, et on ne peut que s'en réjouir, c'est cette égalité vers laquelle nous allons entre les hommes et les femmes, et c'est le fait que ça n'est plus le mariage qui est le centre, le socle de la famille à proprement parler, et donc il y a effectivement, comme vous le disiez, plein de façons d'être en famille sans être un couple hétérosexuel marié, forcément. Et le grand point à l'heure actuelle qui a concentré beaucoup d'énergie dans notre rapport, c'est cette question de la monoparentalité qui concerne une grande majorité des femmes, bien évidemment, qui n'est pas forcément un établissement d'une famille éternelle, mais c'est tous ces passages par la monoparentalité qui peuvent conduire à la recomposition familiale par la suite, mais qui sont des passages extrêmement difficiles pour les pères comme pour les mères à ce moment-là, parce que les mères se retrouvent souvent seules, avec beaucoup moins de moyens, on le sait, beaucoup plus de difficultés de logement, de travail, etc. Mais les pères sont aussi démunis dans cette question de comment est-ce qu'on reste en contact avec l'enfant, comment est-ce qu'on met en place une garde partagée si c'est ça qu'on a envie pour sa famille, comment est-ce que dans son entreprise, si on est un père qui a des enfants tout seul une semaine sur deux, on va pouvoir se faire entendre pour autour de l'enfant malade, autour des congés, autour des vacances.
Enfin, vous trouvez que les hommes sont moins bien entendus dans les entreprises que les femmes aujourd'hui là-dessus ?
Ben, je dirais qu'ils osent moins demander, parce que justement, on ne considère pas que les pères ont les mêmes droits. Vous savez, Elisabeth Badinter, elle disait il y a une trentaine d'années, si les femmes veulent être légales des hommes, il faut que les pères soient égaux avec les mères. Et c'est vrai dans le plan de l'entreprise. Un père qui demande un congé, un père qui a un enfant malade, un père qui demande une demi-journée pour aller à l'école, pour rencontrer les enseignants de son enfant, eh ben, on le regarde un peu moins bien que si c'est la mère,
Et parmi vos recommandations, justement, vous, vous préconisez 4 demi-journées, c'est ça ?
Oui, absolument. 4 demi-journées, un peu comme les demi-journées enfant malade, mais l'enfant n'a pas besoin d'être malade, il a juste besoin d'être à l'école et que peut-être il y a besoin d'un rapport plus particulier avec les enseignants, de mettre en place avec eux un certain nombre de mesures pour aider cet enfant et que chacun peut avoir droit à ces 4 demi-journées dans l'année.
Allez, on vous écoute toujours au standard du téléphone. Vous êtes nombreux, 01 45 24 7000. On a Fred qui souhaite s'exprimer. Bonsoir Fred.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu.
Merci beaucoup.
Nous vous écoutons.
Alors, ouais, dans quelle mesure la multiplication des divorces a contribué à fragiliser l'autorité parentale ? Bon, moi, je vis avec la mère de mes enfants. Et déjà, on a besoin de communiquer très souvent pour se caler ensemble sur l'autorité, nos attentes, les règles, les sanctions, bref. Et c'est déjà un défi. On a deux enfants. Mmh. Alors, j'imagine, quand on est séparé, quand on ne peut pas vraiment discuter des règles, encouragement, sanctions, chaque parent fait à sa manière, du mieux qu'il peut. Et l'enfant, il peut peut-être réussir à profiter des failles, à obtenir en réalité ce qui est le plus favorable pour lui, non ?
Mmh, mmh. Serge Hefez, un grand classique.
un grand classique, mais pour prolonger ce que disait Hélène Rock sur cette question de l'autorité, l'autorité, c'est pas donner des taloches, c'est pas donner des ordres, mais c'est admettre une hiérarchie, et une hiérarchie protectrice, une hiérarchie bienveillante. Les parents ne sont pas au même niveau hiérarchique que les enfants, et c'est ça qui protège les enfants, c'est le fait de savoir qu'ils ont une génération au-dessus d'eux qui est là pour assurer cette protection. Mais pour pouvoir exercer cette autorité de façon bienveillante, il faut prendre une distance par rapport à l'enfant. Je veux dire qu'un parent seul avec l'enfant, il est vite pris dans le conflit, etc. Et c'est difficile de pouvoir prendre de la distance, comme on dit. Et c'est pour ça que c'est mieux quand il y a un tiers. Mmh. Ce tiers peut être l'autre conjoint, mais il peut être le beau-père ou la belle-mère, mais il peut aussi être un parrain, il peut être un grand-parent, peu importe. Mais l'existence des tiers est importante.
D'autres référents
adultes. D'autres référents. Or, nous avons encore des modèles familiaux très traditionnels où l'autorité, c'est le papa et la maman biologique et pas d'autres. Et la place des beaux-parents, là-dedans, dans les situations de coparentalité, elle devient complexe parce qu'on ne sait pas très bien. Est-ce que c'est un père ? Est-ce que c'est pas un père ? Est-ce que c'est une mère ? Est-ce qu'ils ont les mêmes droits, les mêmes prérogatives ? Est-ce qu'ils peuvent intervenir de la même façon ?
Et les enfants souvent leur disent « tu n'es pas mon père ».
Absolument. Et effectivement, comme disait votre auditeur, les enfants profitent un petit peu de ce flou qu'il y a autour de... Alors qu'il s'agit justement de renforcer les processus.
Alors comment retrouver une bonne position dans un couple divorcé ? En passant justement par les référents extérieurs ?
Oui, en s'appuyant sur des référents extérieurs, en faisant en sorte que quand on est trop pris dans le conflit, dans l'angoisse par rapport à un enfant, eh bien, ces référents sont importants. Et que si ce n'est pas le père, ça va être un autre référent, mais que ça, c'est très important.
Mmh. Il y avait Claudie tout à l'heure, hein, dans le premier témoignage, qui disait « il faut poser des limites ». Est-ce que ça, c'est important ? Parce que poser des limites, ça veut dire que l'enfant, il aura confiance en cet adulte qui est capable de lui dire non.
La limite, vous savez, c'est la limite des générations. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, mon parent et moi, nous ne sommes pas dans la même génération. Il y a une limite qui nous sépare et on sait bien que aujourd'hui, le fait qu'on adore les enfants, qu'on les chérisse, qu'on veuille qu'ils soient les plus heureux possible, qu'on leur demande leur avis sur tout... Oh, on en fait trop,
c'est souvent,
le seul principe éducatif, c'est de voir le bonheur de l'enfant et de tout lui passer et de lui demander son avis sur tout.
Mais on parle beaucoup, ça négocie, on négocie beaucoup avec les enfants.
Oui, mais négocier c'est pas mal, mais en dernier recours, c'est quand même le parent qui a...
J'ai décidé que...
Voilà,
Hélène Rock, qu'est-ce que vous en dites ?
Moi, écoutez, encore une fois, je voudrais ajouter la perspective sociétale et revenir tout à l'heure sur cette phrase « il faut tenir leur gosse ».
En fait, ça, c'était la phrase d'Éric Dupond-Moretti. Voilà, hein. Oui.
Les mêmes qui disent « ils n'ont qu'à tenir leur gosse » sont ceux qui disent « ils veulent des vacances en plus » quand on donne, par exemple, 28 jours de congé paternité pour les pères, comme on a fait en 2021. Et si on en faisait... un petit peu plus, comme par exemple les 4 demi-journées que nous proposons, ou comme par exemple nous proposons également que les listes de représentants de parents d'élèves dans les conseils d'établissement soient des listes paritaires. C'est une des rares élections, peut-être la dernière, dans laquelle il n'y a pas la parité. Donc nous, ce que nous voulons, c'est imposer la place du père pour qu'il y ait deux parents, ou la place du deuxième parent en tout cas, c'est pas forcément un père, parce que nous pensons que pour cette autorité, deux personnes et la coparentalité, c'est mieux qu'une personne face à un enfant. Donc moi, je rappelle à ceux qui disent ils n'ont qu'à tenir leur gosse, qu'il faut à ce moment-là que la société fasse en sorte que de multiplier les mesures qui permettent d'instaurer une présence active des deux parents auprès des enfants. Et c'est le sens de la plupart des mesures. Par exemple, les lieux d'accueil.
On a une petite rupture. On va vous rappeler, Hélène Roch. Vous souhaitiez poser une question, Alice Cachanet.
Oui, tout à fait. Hélène Roch parlait de la société. Et dans votre rapport, Serge Effès, vous parlez de la création d'un label, celui du label Ville Amie des parents. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, la société, elle est hostile aux parents ou au moins indifférente ?
Mais ça veut dire que les parents se sentent souvent seuls et qu'il y a une tendance à l'atomisation aujourd'hui des personnes et des individus et la perte du côté un peu village, du côté un peu communautaire qu'il peut y avoir. Or, les parents ne sont pas seuls pour éduquer un enfant, ils font partie d'un tissu social et beaucoup des mesures que nous proposons, c'est pour renforcer ce tissu social.
Mais alors ressemblerait à quoi une ville amie ?
Une ville amie des enfants, c'est une
ville...
Et
des parents ?
Une ville amie des parents et des enfants, c'est une ville dans laquelle tous les dispositifs de soutien à la parentalité sont connus, sont visibles, fonctionnent, que l'accès au logement est plus facile. On a un certain nombre de mesures autour de l'accès au logement, et notamment dans les cas de monoparentalité, on sait bien que c'est plus compliqué. Au niveau des allocations au logement, des APL par exemple, qui sont divisées par deux en cas de séparation, nous on propose que l'APL soit versée intégralement à chacun des parents, parce que chacun des parents doit avoir un logement décent pour pouvoir accueillir ses enfants. Donc de quelle manière la ville va accueillir toutes ces transformations, aussi sur le plan de l'urbanisme, tout simplement des trottoirs où on peut faire circuler des poussettes, enfin toutes ces choses de l'aménagement, disons, urbain, mais au-delà de ça, que les parents aient le sentiment de faire partie d'une communauté de parents, favoriser l'hypervoisinage, favoriser toutes les actions communautaires que peuvent faire les systèmes d'entraide entre parents, favoriser les associations qui vont justement aller dans le sens de ce soutien global à la parentalité.
Mais les associations, elles existent, elles font un travail incroyable déjà, mais on ne les connaît pas forcément.
On les connaît
pas. Il y a un problème d'information quand même fondamentalement.
Absolument,
parce qu'il y a des initiatives un peu partout.
Tout à fait. Et vous savez, on a fait un peu un tour de France, on a fait plus des tas d'auditions autour de ça, et on a rencontré des associations qui font un boulot formidable sur le terrain. Alors il faut savoir que ces associations, elles sont précaires, qu'elles ont des budgets à renouveler tous les ans, qui fait que parfois elles doivent déposer le bilan tous les ans avant de se reconstituer, et qu'effectivement, comme vous disiez, leur travail n'est pas toujours connu. C'est pour ça qu'on préconise un numéro vert, TIL 115, qui soit vraiment documenté localement dans chaque ville, dans chaque département, sur ce qui existe et comment y faire appel, et que chaque parent puisse trouver là une réponse rapide à ses interrogations.
Hélène Roch.
Je pense que c'est en fait c'est le triptyque éducation, législation et communication. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, la bataille de la communication est à écrire et est à gagner. Donc Serge Effès vient de donner à l'instant l'exemple du numéro vert, mais évidemment ce numéro vert ne serait pas juste un numéro qui permet d'exprimer son malheur, mais de pouvoir réorienter sur tous ces lieux. Donc on parlait tout à l'heure des lieux d'accueil parents-enfants, il y en a 1700. Un peu plus de 1700 sur le territoire. Il y a certains départements peut-être dans lesquels il n'y en a pas. Il faut qu'il y en ait davantage dans les zones rurales. Mais il est évident qu'il faut absolument non seulement changer les mentalités, comme on le disait tout à l'heure, mais aussi gagner cette bataille de la communication, de l'information, pour
oui, mais Hélène Roch, des numéros verts, il y en a je ne sais pas combien. On croule sous les numéros verts, dans toutes les situations de notre vie, quasiment. Il y a un numéro vert, c'est formidable, et en même temps, ben, on ne sait pas quel est ce numéro. Donc comment faire, comment réussir là, sur ce numéro vert parent en détresse, là où, dans la plupart des cas, ça ne marche pas.
Je vais vous donner un exemple. En réalité, je ne sais pas si c'est votre question, mais comment réussir à ce que ce numéro vert soit utile, comme par exemple le 118 pour le harcèlement.
Qu'on sache qu'il existe
qu'on
déjà.
Qu'on sache qu'il existe. Je vais vous donner un parallèle qui va peut-être vous surprendre. La sécurité routière. Il faut accepter le temps long. C'est vrai qu'on ne va pas réussir en quelques semaines. Mais la sécurité routière, c'est une batterie de messages pendant des dizaines d'années. Au début, c'est de la communication. Avant d'arriver au permis à point, il y a 20 ans de messages martelés, de campagnes vraiment flash à la télévision. Il faut absolument installer cette communication.
Oui, donc ça va prendre beaucoup de temps, en fait.
Non, parce que maintenant, la communication est beaucoup mieux organisée qu'il y a 50 ans. C'est ça, la bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a les moyens, la société a les moyens aujourd'hui de s'approprier un message public et donc de le marteler. Et on peut faire aujourd'hui, probablement en un an ou deux, un travail de communication aussi efficace que celui qui demandait une dizaine d'années, quand on disait un verre ça va, trois verres bonjour les dégâts, oui. Donc, ou deux verres d'ailleurs. Mais c'est vraiment très très important, parce que c'est sans, si on est que dans la sanction et qu'il n'y a pas de travail de prévention, ça ne peut pas marcher. La sanction ne pourra pas marcher. Il ne peut y avoir que de l'éducation, de la prévention. Et encore une fois, sur les situations de décrochage scolaire, il faut agir. On ne peut pas attendre que les numéros verts aient porté leurs fruits. Mais on peut regarder dans le passé, il y a quelques années, il y avait des associations beaucoup plus vivaces qu'aujourd'hui de prévention en matière de décrochage scolaire. Et les spécialistes s'en plaignent, parce que malheureusement, ces dispositifs se sont un petit peu étiolés par manque de financement. Donc il faut la politique de ses moyens et les moyens de sa politique. Il faut de la prévention et il faut cibler quelles sont les priorités. Et l'échec scolaire et le décrochage scolaire, c'est une immense priorité de la législation, parce qu'en effet, on ne peut pas... Voilà, l'autorité, ça existe, c'est dans les textes. Donc, par exemple, nous, on propose de faire entrer dans le code de l'éducation un certain nombre de dispositions. Et puis, il faut de la communication et de l'information, et il faut que ce soit une volonté publique. Il ne suffit pas de dire... on a beaucoup hésité, je vais vous dire, à écrire cette phrase de numéro vert, parce qu'on savait très bien qu'on allait nous dire... Quand on ne sait pas quoi faire, on fait un numéro vert. C'est la boutade. Mais ce n'est pas vrai. Et parce que demander à un parent en détresse, si par hasard, ça ne lui aurait pas rendu service de savoir qu'il peut faire le 123 et qu'il peut avoir tout à coup la réponse à la question de « qu'est-ce que je fais ?» Mon fils a déjà une jambe par la fenêtre, il veut se défenestrer. « Qu'est-ce que je fais ?» Excusez-moi, mais moi, je ne méprise pas la question du numéro vert.
Donc... Allez, on repart au standard, à rejoindre Aurélien, qui nous a appelé. Bonsoir Aurélien.
Bonsoir.
Nous vous écoutons.
Merci de prendre mon appel. Alors, j'entends avec assiduité ce que bon nombre de personnes sont en train de dire au sujet de l'autorité, au sujet du fait de légiférer, de mettre des carcans, des numéros verts, tout un tas de dispositifs qui théoriquement semblent intéressants. Maintenant, dans la pratique, je m'interroge juste sur la notion de modèle et d'exemplarité et de représentation, en fait, que peut-être nos enfants aujourd'hui ont perdu. Et lorsqu'on observe nos politiques, nos représentants, nos sportifs, nos coquilles vides qui publient tout un nombre de choses sur les réseaux sociaux, et que finalement ces gens-là réussissent, et même plutôt bien dans l'absolu, on comprend que finalement ces enfants-là, ces gamins-là, aient perdu un petit peu la notion du bien faire, de l'importance de bien faire, de parce que finalement c'est pour eux avant tout, c'est ni pour nous en tant que parents, ni pour leur entourage, mais avant tout pour eux. Et je crois qu'on a un peu oublié ça, et que ce soit l'école ou certains parents ont perdu un peu ça de vue, le fait que l'éducation avant toute chose en fait c'est pour eux et uniquement pour eux, et tant qu'on leur tant qu'on continue de leur dire que finalement c'est soit pour réussir, soit pour atteindre un objectif sociétal ou social, finalement moi ces gamins-là je les comprends en fait qu'ils aient pas envie d'y aller, parce que aujourd'hui il suffit de faire un imbécile devant une caméra et ensuite, enfin je vulgarise,
oui,
j'entends
bien,
mais voyez ce que je veux dire, et du coup je me dis que À un moment donné, effectivement, la notion d'exemplaire, d'exemplarité.
L'exemplarité,
modèle,
voilà. C'est intéressant, la question d'Aurélien Serge Effet sur l'exemplarité.
Oui, c'est intéressant, surtout lorsqu'il soulève cette question des écrans et des réseaux sociaux, qui sont quand même un des grands points, des énormes points de difficulté aujourd'hui, dans les relations qu'on a avec les enfants, et dans le fait qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Du côté des enfants, et qui peut devenir très dangereux. On le voit, ne serait-ce qu'en termes de harcèlement scolaire, etc. Ça nous a aussi occupé, bien évidemment, cette question des écrans, même s'il y a une commission très spécialisée sur les écrans qui s'est réunie en même temps que nous. Et si d'autres choses existent, c'est pour ça qu'on ne s'est pas tellement concentré sur les mesures qui pourraient être un peu interdictrices, comme laisser le téléphone à l'entrée du collège ou du lycée, etc. Bien sûr, tout ça peut être intéressant, mais sur le fond, ce qui est important, c'est, par exemple, ce qu'essaye de mettre en place une ville comme Montpellier, écran en veille, activité en éveil, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on propose comme alternative aux enfants qui passent leur journée, leur week-end, leur soirée devant des écrans. Eh bien, proposer justement ces alternatives, c'est avoir l'idée d'un maillage différent autour des enfants, c'est des activités qui peuvent leur être proposées en dehors des heures scolaires. Souvent, les parents, ils sortent de leur travail, ils sont chez eux à 20h. Les enfants, entre 17h et 20h, ils sont sans activité, livrés à eux-mêmes. De quelle façon on peut inventer tout un tas de propositions attractives vers ces enfants qui vont leur faire comprendre que la meilleure chose dans la vie, c'est pas d'être collé à un écran.
Mmh, mais ça va quand même être difficile de faire passer le message.
je suis bien d'accord.
Je parle par expérience. Alors, on va repartir au standard. Bonsoir Marie-France.
Oui, bonsoir.
Bienvenue sur France Inter.
Je vous remercie. Je vous appelle en tant qu'éducatrice spécialisée et thérapeute de couple et de famille. Et je vous précise que j'ai 62 ans, donc j'ai quelques années d'exercice professionnel. Alors, on parlait d'autorité au tout début. Moi, je dirais qu'avant de parler d'autorité, je parlerais de transmission, parce que à travers mes expériences professionnelles, ce que je peux observer, et je suis pas la seule pour en parler avec des collègues, c'est qu'en fait, les nouveaux parents, qu'ils soient jeunes parents ou moins jeunes, font de moins en moins référence à la transmission qui leur est faite par leurs propres parents, voire par leurs grands-parents, au profit de réseaux sociaux, parce que ces nouveaux parents, qu'ils aient entre 20 et 40 ans, vont chercher davantage de références sur les réseaux sociaux. Et donc ça, c'est tout de même un souci, parce qu'en fait, ils disent que leurs parents, alors ne parlons pas des grands-parents, ne sont plus au goût du jour. Hein. Donc c'est pourquoi ils se tournent vers les réseaux. Et puis, deuxième remarque, et M. Effèze ne me contredira pas, il y a un manque de dialogue crucial entre les parents et les enfants, parce que les outils numériques étant très présents aussi bien chez les parents que chez les enfants, et donc il y a un manque de dialogue crucial. Et lorsque j'entendais qu'il disait il faut laisser les téléphones à l'entrée du collège, je dirais qu'il faut aussi laisser les téléphones à l'entrée des habitations pour permettre le dialogue.
Mais voilà. Vous croyez vraiment qu'il y avait plus de dialogue entre les parents et les enfants dans les années 60-70? Marie-France.
Ah ben oui, indéniablement. À table, on se parlait. Or, à table, maintenant, très jeunes, les enfants ont recours à leur téléphone. Leur téléphone est le prolongement de leur main, malheureusement.
Serge Effèze, qu'est-ce que vous en dites du témoignage de Marie-France?
Écoutez, il y a toujours cette vision un petit peu nostalgique où c'était mieux avant.
Mais est-ce que c'était mieux avant?
Les relations et les dialogues dans les familles.
C'était différent.
C'était différent, mais ce qui est sûr, c'est que, et c'est là le sens de notre commission, c'est pas, si vous voulez, d'intervenir psychologiquement dans chaque famille pour savoir quels sont les bons conseils qu'on peut donner aux parents, ou est-ce qu'il vaut mieux une éducation de tel ou tel type, même si ces bons conseils pullulent à l'heure actuelle et foisonnent un petit peu partout,
ça,
et que les parents sont
problème,
un petit peu perdus. On sait plus l'art d'accommoder les bébés, on sait plus très bien qu'est-ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, mais c'est comment toute une société peut se sentir impliquée pour que les parents fassent partie d'une trame sociale et sociétale. Cette question des écrans, il faut absolument que ça ne soit pas du ressort simple des parents en termes d'interdiction et de relation à leur enfant, mais que ça soit inscrit effectivement dans tout un discours social et surtout un discours qui propose, comme je disais tout à l'heure, des alternatives par rapport à ce corps à corps, si j'ose dire, avec les écrans. Hélène Roch rappelait, par exemple, ce qu'a été la sécurité routière, ce qu'est la lutte contre l'alcoolisme. C'est des messages en permanence, c'est des conseils en permanence, c'est des suggestions en permanence pour être plus prudent sur la route, pour consommer moins d'alcool, etc., qui sont donnés depuis des années. Eh bien, autour des écrans, il faut vraiment quelque chose aujourd'hui de massif et de visible qui permette de prendre conscience que c'est devenu un poison dans la construction psychologique des enfants, et que si on ne s'y met pas à tous pour intervenir là-dessus, on va vers des catastrophes.
Hélène Roch, donc c'est la société qui doit prendre en charge aussi la parentalité.
Alors, je peux ajouter peut-être un petit mot sur les écrans. Simplement, il y a deux choses que je voudrais ajouter. On a dans cette commission des chercheurs en sciences de l'éducation qui ont eu des très très beaux résultats sur tout ce qu'on peut faire pour faciliter et faire la promotion de la lecture. Donc ça c'est vraiment une alternative à l'écran qui est extraordinaire et on la développe. C'est une des solutions et une des choses que je répondrai à Marie-France pour la transmission. Mais aussi sur les écrans, je voudrais dire quelque chose qui me tient à cœur, c'est que quand on pense écran, on pense à écran, ado, enfant. Il faut aussi penser aux écrans des parents, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'entre nous, parents qui sont souvent assis sur leur canapé avec leurs écrans. Et je crois que ce qui est un petit peu différent de ce qui se passait avant, c'est que l'information arrive à chaque membre de la famille de façon morcelée. Mmh. C'est peut-être la différence avec la grand-messe du journal télévisé. Je ne dis pas que c'était bien de regarder forcément la télévision dans le repas de famille, mais en tout cas, là, aujourd'hui, 4 personnes, 8 personnes d'une même maison peuvent recevoir une information chacun de son côté. Et les parents qui contrôlent les écrans des enfants feraient bien de contrôler. Moi, j'aimerais beaucoup avoir des enquêtes sur les temps d'écran des parents.
Mmh. Non, mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites aussi, et oui. Hélène Roch, c'est l'individualisation au sein même de la famille de plus en plus. On est au bout du bout, là, Serge.
Il y a effectivement, il y a moins de repas de famille. Ça, je le vois, on le voit, dans le champ de la santé mentale. Chacun décongèle sa pizza dans son coin, effectivement, en regardant son téléphone ou en regardant un film. Il y a une tendance à l'atomisation, c'est vrai. Oui. Et que le sens de notre rapport, c'est vraiment de lutter sur tous les plans contre cette atomisation et recréer, encore une fois, le village, c'est peut-être un petit peu utopique, mais enfin, le sentiment qu'on participe quand même d'un mouvement collectif, et comment est-ce qu'on va activer ce mouvement collectif ? Encore une fois, beaucoup de nos recommandations vont dans ce sens. L'autre point, si je peux me permettre, parce que c'est ça qui semble aussi animer les questions des auditeurs, c'est toutes les questions de santé mentale des enfants et des adolescents.
J'allais y venir.
Eh ben, voyez, j'avais lu dans vos pensées,
absolument,
qui est effectivement un problème énorme à l'heure actuelle. On le sait.
Depuis
le Covid, il y a des problèmes psychologiques, voire psychiatriques, qui ont été multipliés par 2, par 3 chez les enfants et les adolescents, les tentatives de suicide, les recours aux médicaments, et que notre système de santé ne peut pas répondre à ça, il n'y arrive plus. Si vous téléphonez aujourd'hui à un centre médico-psychologique pour enfants, pour avoir un rendez-vous, on vous le donne dans un an ou dans 18 mois. Donc vous imaginez ce que c'est que le traitement de l'urgence. Or, là aussi, il s'agit de penser en termes de prévention, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire en sorte qu'avant qu'il y ait besoin du psychiatre, il y ait suffisamment de recours dans les associations, à l'école, etc. Et donc, on propose un certain nombre de choses. Un examen psy, par exemple, systématique pour tous les enfants en 5e ou en 4e.
Et qui peut serait déjà... fait où en cabinet ou à l'école?
Ben ça, c'est à créer. Hein. Ça peut être à l'école.
Et
comme
les
psys
sont déjà
scolaire.
Débordés, monsieur Effez. Mais je vous apprends rien.
Vous ne m'apprenez rien. Vous ne m'apprenez rien. C'est encore un petit travail supplémentaire, mais qui peut peut-être éviter la surcharge par la suite. Mais il y a aussi tout ce système aujourd'hui qu'on appelle les sentinelles en santé mentale, qui ne sont pas des psychiatres ou des psychologues spécialisés, mais qui ont une formation à la santé mentale et qui peuvent être des relais pour intervenir précocement avant qu'il y ait recours au système spécialisé. C'est remettre en place quelque chose qui ne fonctionne plus très bien actuellement, qui sont les conseils locaux de santé mentale et qui font que justement avec l'école, avec la justice, avec le centre de santé locaux, on a plus une habitude de se réunir, de parler des situations pour faire en sorte que la prévention puisse être effective avant les décompensations. De même pour la justice. Vous savez, à l'heure actuelle, 75% pardon, des mesures d'accompagnement des jeunes sont des mesures judiciaires. Mmh. Et 25% sont des mesures simplement administratives. Ça n'a pas de sens. Bien, la justice aussi est saturée. Encore peut-être beaucoup plus que la santé mentale. Comment, en intervenant en avant, on peut inverser ce processus ?
Mmh. Allez, on va prendre un dernier appel au standard, c'est celui de Laurent. Bonsoir Laurent.
Oui, bonsoir. J'entendais votre échange tout à l'heure concernant le numéro vert potentiel à créer ou déjà créé, je ne sais pas trop. Et les lacunes que pourrait engendrer le temps qu'il mettrait à être diffusé, comme celui de la sécurité routière, tout ça.
Bon. Oui.
Par ailleurs, en parallèle, souvent, il y a des menaces qui sont faites aux parents de suppression des allocations familiales pour défaillance. Bon, ça, c'est des guillemets. Je me demandais si simplement pour que ce numéro vert soit diffusé rapidement avec une efficacité amplifiée, ça pourrait pas être la CAF qui le prenne en charge sur ses courriers comme sur son site, de façon à diffuser l'information et à permettre d'être en lien direct avec l'intérêt des parents comme l'intérêt de la CAF, parce que c'est l'intérêt des deux, je pense que...
La caisse d'allocation familiale, c'est vrai, un petit dans le courrier de la caisse d'allocation familiale, Serge Fès, pourquoi pas ?
Oui, de toute façon...
Enfin, il faut le rendre visible.
Ce sont les caisses d'allocation familiale qui ont la main, à l'heure actuelle, sur tout le dispositif de prévention et soutien à la parentalité qui existe. Hein. C'est eux qui l'organisent et qui le structurent. Donc, bien évidemment, la place des CAF par rapport à toute initiative qui pourra être faite dans le soutien à la parentalité est primordiale.
On a une question de Lionel sur WhatsApp qui nous dit qu'est devenue l'idée d'imposer un devoir de visite aux pères pour les pères qui n'assument pas leur parentalité. C'est le président de la République qui l'avait suggéré. Est-ce que ça va être mis en place, Hélène Roch ?
Alors, franchement, je dois dire que je suis un petit peu obligée de botter en touche sur cette question parce que je n'ai pas la réponse de savoir si ça va être mis en place sur cette obligation.
En tout cas, c'était un objectif.
C'était un objectif.
Et on en revient au début de notre conversation sur la coparentalité qui est finalement un peu le nerf de la guerre, Hélène Roch, si j'ai bien compris.
Oui, l'idée clé, c'est vraiment la coparentalité et c'est vraiment changer les mentalités avec de la prévention et de l'éducation à la parentalité depuis la naissance et même avant la naissance, avec éventuellement des entretiens obligatoires avec les deux parents pour que les parents comprennent que c'est être parent, ça n'est pas être assistant parental, mais c'est être parent à part entière. Donc l'éducation, la législation et la communication.
Comment être parent, c'est quand même très difficile, Serge Fès. Aujourd'hui, il y a une espèce d'injonction à la perfection qui doit paralyser bon nombre de parents quand même aussi, non ?
Vous savez, les parents et les pas-parents, hein, ils sont paralysés par cette injonction à la perfection. C'est nous tous dans la société dans laquelle nous sommes à l'heure actuelle qui pousse et à l'individualisation et effectivement au souci de soi et à la réussite personnelle de manière féroce. Et donc, je pense que les enfants peuvent nous apprendre à sortir justement de ça, de ce souci de la perfection, et tendre vers des relations qui, si elles ne sont pas perfectibles, du moins sont en mouvement, sont en invention, sont en élaboration.
Alice Cachaner, très rapidement, parce qu'on arrive à la fin de cette émission.
J'ai une petite question, parce que vous prenez une société partenaire des parents et vous dites un euro investi dans la politique du soutien à la parentalité n'est pas un euro perdu. Combien ça coûte, une société partenaire des parents ?
Ça coûte sûrement moins cher qu'une société qui n'est pas partenaire des parents et qui multiplie les décompensations, qui multiplie les passages à l'acte judiciaire, qui multiplie le fait que quand la prévention n'est pas une prévention de qualité, eh bien on paye les pots cassés par la suite et que ça coûte beaucoup plus cher.
Voilà, merci, ce sera la conclusion. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Hélène Roch, Serge Fès et notre journaliste Alice Cachaner. Dans un instant, il va être 20h.